Il faut que tu prennes le micro avec fil, apparemment. Oui ou non ? Non ? Bon, alors non.
En fait, nous, on est très contents quand on vient ici. Aussi, on est contents quelquefois si on ne vient pas. Enfin, on est aussi contents ailleurs. Mais voilà, il y a, je sais pas, voilà, il y a quelque chose. Dans nos cœurs, il y a une tendresse particulière pour cette église. Et pour certains qu'on connaît depuis très longtemps, et qui sont ici, qu'on connaît depuis très longtemps, et puis aussi, ça inclut ceux qu'on ne connaît pas. Il me semble avoir reçu dans mon cœur de parler de quelque chose qui revient assez régulièrement dans la Bible, et donc particulièrement dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire le siècle présent et le siècle à venir. Ce temps-ci et l'éternité. Et le message nous ramènera à ce qu'on a vu là, à ce qu'on a vu en vidéo, c'est-à-dire à manifester Jésus et à évangéliser. Donc, si vous voulez, on lit d'abord dans Marc au chapitre 10, les versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, donc dire à Jésus, Pierre se mit à lui dire, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Ça c'est bien. Rien que là, ça c'est bien. C'est à peu près ce qu'un homme peut faire de plus intelligent dans sa vie. Et Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple, présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc aujourd'hui, je propose pas de s'arrêter sur le fait de quitter, de voilà, mais c'est le contexte, suivre Jésus, quitter, suivre Jésus, ça on en reparlera, mais si on a quitté, si on a perdu, qu'est-ce que ça nous a coûté, à quoi on a renoncé, etc. Parce que si excusez-moi, non, c'est moi, merci, si on a renoncé, c'est parce que Dieu a montré que c'est ce à quoi on a renoncé, c'était pas bon, ou ce à qui on a renoncé, au moins pour un temps, il fallait le faire. Donc, d'accord, Jésus dit bien à cause de moi et de l'Évangile. C'est autre chose, j'ai quitté mon père parce qu'il m'énervait et que j'ai un sale caractère. Vous voyez, ça c'est une autre affaire, il ne s'agit pas de ça. C'est à cause de moi, dit Jésus, donc la personne de Christ, le Fils unique de Dieu, à cause de moi et de l'Évangile, de la bonne nouvelle en Christ. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne s'arrête pas sur parler du renoncement, du prix à payer, etc., ce dont la Bible parle, bien sûr, et ce dont Jésus parle ici, mais qu'en disant tout ça, Jésus parle de ce temps-ci, et en plus, il dit bien présentement dans ce temps-ci, donc il y a un pléonasme, Il redit avec deux manières différentes, et il le fait exprès évidemment. Donc ce temps-ci est le siècle à venir. Alors c'est quelque chose dont la Bible et le Nouveau Testament plus précisément, enfin davantage, parlent beaucoup, plus que nous. Le siècle présent et le siècle à venir. Quand Éphésiens 1, quand le Saint-Esprit a fait écrire Éphésiens 1 à Paul, à la fin, ça finit comme ça que Dieu a ressuscité Christ et l'a souverainement élevé et il a tout mis sous ses pieds. Tout nom qui. Et il a mis sous ses pieds toute autorité, etc. Et tout nom qui peut se dire dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Voilà. Alors, maintenant, si vous voulez, Colossiens 3. Non, pardon. Je me suis trompé. C'est tout à l'heure. Pour le temps présent, une des paroles qui nous encourage le plus, c'est le dernier verset de l'évangile de Matthieu. Et voici, je suis tous les jours avec vous. Mais précédemment, Jésus avait dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il y a cette idée double, ce siècle-ci et le siècle à venir. Mais quand même, ce qui nous bénit, c'est qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Jésus l'a dit, et le Saint-Esprit rappelle les paroles de Jésus. Il l'a rappelé à Matthieu quand il a écrit l'Évangile, il nous rappelle à nous souvent, « Je suis avec vous tous les jours ». Et c'est une parole pour maintenant, pour la vie sur terre. C'est une parole pour le jeune homme, la jeune fille, pour le collégien, pour la lycéenne, pour l'étudiant en fac, pour la maman, la jeune maman, la vieille maman, c'est-à-dire la grand-mère. C'est une parole pour les intellos, pour les manuels, c'est une parole pour ceux qui n'ont pas beaucoup de soucis, c'est une parole pour ceux qui ont beaucoup de problèmes et de douleurs, etc., etc. C'est pour maintenant. Je suis avec vous tous les jours. Et le Saint-Esprit a fait écrire ça. Et il a aussi fait écrire à l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 5, donc chapitre célèbre pour si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il nous a donné le ministère de la réconciliation, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dans ce chapitre-là, le Saint-Esprit a fait écrire « En demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur ». Alors moi je croyais qu'il était avec nous tout près. Voyez. Or, les deux sont vrais. Non seulement il est tout près, mais il habite notre cœur. Donc il ne peut pas être plus près. Il est complètement près, tout le temps avec nous. Tout le temps, tout le temps. Si même moi je le lâche, lui il ne me lâche pas, puisqu'il m'a adopté. Et en même temps, Paul dit bien, donc le contexte là, plus limité de ces versets-là, du début du chapitre 5, c'est là où la terre soupire après la révélation des fils de Dieu. Et nous aussi, nous soupirons. Et en étant dans ce corps, nous gémissons. Alors, ce qui nous fait gémir, ce n'est pas que Jésus soit avec nous tous les jours. C'est que nous n'en voyons pas tout, nous n'en avons pas tous les bénéfices, etc. Alors, certes, Dieu veut qu'on en voie davantage les bénéfices. Est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul envoyait quand même pas mal les bénéfices? Si vous avez des doutes, lisez Acte 19. Vous allez dire, ça parle de quoi? Ben, lisez Acte 19. Pardon, lisons Acte 19. Je ne suis pas exclu de... Je suis aussi destinataire de l'exhortation. Et là, il dit, en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Parce qu'on ne voit pas tout, on n'expérimente pas tout. Ce qui est parfait n'est pas encore venu, etc. D'accord? Voilà. Et maintenant, Colossiens 3. Alors ça, on le lit davantage. Ce que j'ai lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 5, on le lit jamais. J'ai jamais entendu cette partie de la Bible prononcée à voix haute dans une église. Et ça fait 46 ans que je suis converti. Colossiens 3. Si donc, ou puisque donc, c'est l'idée, hein, vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Pourtant, on a quand même assez clairement l'impression d'être vivant et d'avoir notre vie à peu près regroupée avec nous. Hein? À peu près dans notre corps, dans notre âme. Tout. Enfin, voilà, nous sommes des âmes vivantes. Oui, complètement. Et la Bible en parle beaucoup, de cette vie-ci. Et en même temps, elle dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une vraie vie, de la vraie vie, et d'une vie, maintenant, qui est réelle. Ce n'est pas une illusion du tout, qui est réelle, mais qui n'est pas tout à fait la vraie vie. Alors, c'est, et pourquoi ? Ben à cause de, si vous voulez, à cause de ce qui a été lu tout à l'heure dans le début de l'évangile de Jean, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Enfin, c'est Jésus qui le dit plus loin, mais il dit ceux qui sont nés de lui, pas de la volonté de la chair, pas de la volonté de l'homme. Il dit, voilà, ceux-là sont enfants de Dieu. Donc il y a la vraie vie, et puis il y a la vie juste de créature. Et on sait très bien qu'elle passe. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre ton expression, la vraie vie. Et puis quand tu nous dis cette vie-ci, tout en étant réelle, n'est pas tout à fait la vraie, est-ce que tu n'as pas une autre expression que la vraie vie? Mais ouais, mais elle n'est pas de moi. Devinez où je l'ai trouvé. Dans le seul écrit qui fait autorité absolue pour moi. Voilà, 1 Timothée 6, verset 17, recommande aux riches, selon le présent siècle, de ne pas mettre leur confiance dans la richesse, mais en Dieu, etc. Et le verset finit, afin de saisir la vraie vie. Alors, vous allez dire, d'accord, c'est écrit. Ok, ça on ne conteste pas. Si c'est écrit, on ne conteste pas. Mais quand même, il y a eu tellement de siècles où on prêchait plutôt au peuple de Dieu de tout supporter patiemment, de rien vouloir changer ici-bas et d'attendre juste qu'à la fin, ben, voilà, on rentrera dans la maison du Père et tout sera bien. Ce que Jésus dit, je viendrai, je vous prendrai. Mais on a exagéré là-dessus, parce que quand même, oui, c'est écrit qu'il y a la vraie vie, mais c'est aussi beaucoup écrit, de déjà que Jésus est avec nous dans cette vie-ci, et de le servir dans cette vie-ci, et de l'aimer, et de témoigner, et de bénir notre entourage dans cette vie-ci, et d'être honnête, et de travailler de nos propres mains, et d'être de bons maris, de bonnes épouses, des enfants qui honorent leurs parents, et des parents qui ne provoquent pas leurs enfants. Enfin, ok. Et même si on travaille pour quelqu'un, de faire tout de bon cœur, comme pour le Seigneur et pas pour lui. Tout ça, c'est dans cette vie-ci. Voilà. Et en fait, c'est vrai que le christianisme oscille depuis toujours, entre soit mettre un accent, soit, si vous voulez, mettre l'accent que sur le siècle à venir, et tout subir, tout supporter, alors supporter c'est bien, hein? Jésus a supporté beaucoup de choses, hein, c'est écrit de lui, mais subir passivement, ne pas être acteur, tout subir, et puis même dans l'espérance de partir avec Jésus, quelque part fuir la réalité, en partie, vous voyez, ça a existé, ça existe. Et ça existe encore, et ça a existé il y a longtemps, ça existera aussi encore après. Et puis, il y a eu autre chose aussi dans le christianisme, c'est quand la religion gouverne la société, hein, quand le catholicisme est religion d'État, ou l'église luthérienne, ou réformée, ou n'importe, hein, peu importe après là, et où il semble que Jésus soit venu uniquement pour nous donner une doctrine, des principes et une autorité, pour que cette vie-ci devienne beaucoup meilleure. Accessoirement, plus l'Église gouvernait le monde, plus le témoignage rendu à Jésus était discrédité, même si des choses sont devenues meilleures. Quand même, les premiers centres de soins, les premières écoles, pour n'importe qui, hein, je veux dire, pas pour une élite, pour les premiers hôpitaux, etc., chaque fois, c'était des chrétiens. Donc, et quand c'est ça, si vous voulez, quand tout le focus est sur le siècle présent, et il est en partie bon, ce focus, évidemment, et Jésus lui-même a dit, celui qui me suit, il perd beaucoup de choses, mais il en gagne beaucoup aussi. Il recevra même, si vous avez besoin de terre, il dit, vous aurez des terres. Mais attention, ce n'est pas un contrat. C'est une promesse. C'est pas pareil, un contrat et une promesse. Quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit comme il veut et quand il veut. Quand un patron signe un contrat, il est obligé de le faire au terme inscrit. Donc vous aurez des terres, c'est générique. Voilà, tu as perdu des terres, Dieu te redonnera des terres. Ou autre chose. Avec des persécutions. Alors pourquoi ne croyez pas que je me plais à le souligner ? Pas du tout. D'autant que la réalité de l'Église persécutée, c'est quand même des fois c'est moyen comme fardeau, mais des fois c'est horrible. Les jeunes filles qui ont été enlevées au Nigeria, là, il y a des parents qui sont morts de chagrin depuis. Et pourquoi Jésus dit avec des persécutions ? Ça indique quoi ? Ça indique que la terre n'est pas devenue le paradis. Et que ce n'est pas le dessein de Dieu. C'est la nouvelle terre. C'est la nouvelle terre qui ne sera plus divorcée du ciel. Mais l'évangile n'est pas venu pour que cette terre-ci devienne le paradis. Donc, quand le focus est mis sur les effets présents de la foi, le gros avantage, c'est que l'évangile est démontré dans la cité et le gros inconvénient qui a tellement nui à la crédibilité de l'évangile dans l'histoire, spécifiquement occidentale, c'est que l'Église espère dominer la société, la politique, etc. Donc on a... Hein, théologie de la prospérité, etc. Okay. À l'inverse, quand le focus est mis seulement sur le, est mis surtout, pardon, sur le règne à venir, le plus c'est que l'espérance est placée où il faut, parce que quand même, l'Écriture répète l'espérance de la vie éternelle, et l'inconvénient, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il est très facile de vivre juste en fuyant les réalités d'ici-bas. Tout le monde, voilà, le monde est mauvais, tout le monde est méchant. Et puis nous, on va juste être fidèles à Dieu. Et puis on n'attend que l'au-delà. Est-ce que jusque-là, j'ai été clair ? Est-ce que j'ai posé souci à certains d'entre vous par l'une ou l'autre des remarques ? Si oui, c'était voulu. Alors, Quelle est la doctrine du royaume dans la Bible? Entière, parce que c'est la même, hein, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Quelle est la doctrine du royaume, du règne de Dieu? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur le fait que Dieu règne? Oui. Que le royaume s'est approché. Il y a d'autres suggestions? On va le résumer avec deux paroles de Jésus. Pardon? Oui, le royaume, c'est là où est le roi. Alors, par exemple, Marc 1, verset 15. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu s'est approché. Conséquence, repentez-vous et croyez. On relève en passant que Jésus n'a pas dit « repentez-vous pour que le royaume s'approche ». Une grosse partie de l'espérance chrétienne s'appuie sur ce principe. Repentez-vous et croyez, le royaume s'approchera. Jésus n'a pas dit ça. Il vient unilatéralement. Et pourquoi? Parce que Jésus est venu. Hein. Le royaume, c'est là où Jésus est. Donc le royaume s'est approché. C'est Jésus qui le dit lui-même. Ensuite, Luc 22, verset 18, quand il partage le pain et le vin, il dit, je ne boirai plus, donc j'ai vivement désiré, etc., etc., et je ne boirai plus de ce fruit de la vigne ou cette Pâque, je ne mangerai plus cette Pâque, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Alors, Seigneur, est-ce que... Il est là ou il n'est pas là? Il est venu ou il est à venir? Voilà. Il s'est approché. Il est en partie visible. Ça peut être en partie plus réduite ou en partie très, très, très ample, à tel point qu'on se dit, mais ce n'est pas possible, on est au ciel. Eh bien, non, pas encore. Vous voyez? Et oui, il est venu. Il se manifeste en partie, et notre mandat, c'est de le recevoir, de le croire et de le proclamer. Et il est à venir. Et les deux en même temps. Alors, vous allez me dire, mais il y a une tension là. Entre, d'ailleurs, c'est un mot qui est beaucoup employé en théologie, mais je l'aime bien parce que quand on parle de tension, il y a une tension dans les relations là. Hein. Entre toi et moi, ça veut dire qu'il y a un inconfort. Il y a un inconfort avec le fait que le royaume est déjà approché et pas encore tout à fait venu. Parce qu'on est un peu entre deux. Enfin, vous voyez, il y a un inconfort. Et une bonne partie des désaccords entre chrétiens ou entre courants de pensée ou les focus qui sont mis, une bonne partie des désaccords est simplement due au fait que certains mettent l'accent très fort sur le fait qu'il est venu, qu'il s'est approché, et ils poussent tellement loin qu'à les écouter, il semble qu'il y a déjà tout. Et d'autres mettent l'accent sur le fait qu'il est à venir et que donc il en manque. Et alors, qui a raison? Ben, tout le monde et personne. Vous comprenez, hein? Tout le monde en ce que mettre le focus sur l'une et l'autre, c'est juste, et personne en ce que pousser trop loin, il s'est approché, ou pousser trop loin, il est futur, ben ça nous fait, ça nous pousse à des conclusions fausses. Ok. Alors, cette tension. Non, comment je vais dire ça? Donc tout à l'heure j'ai demandé si j'ai posé des problèmes à l'un ou l'autre. Alors maintenant je vais vous dire, je vais quand même apporter quelques aides à l'un ou l'autre. Ce qu'il faut comprendre au sujet de cette tension, c'est qu'elle vient de Dieu. Et c'est pas à cause de nous qu'il y a tension. C'est pas parce qu'on est trop ou pas assez. Ça existe aussi, on est d'accord. Mais la tension, Parce que nous on n'a rien fait concernant le royaume. On l'a fait ni venir, ni s'approcher, ni... Je veux dire, c'est quand Jésus vient, unilatéralement, c'est le Père et le Fils qui décident, quand Jésus vient, le royaume s'approche. Est-ce qu'avant qu'il vienne, Dieu ne régnait pas? La Bible est très claire, l'Éternel règne. Il règne. Si zéro être humain se prosterne devant lui, est-ce qu'il règne moins? Est-ce qu'il est moins roi? D'accord, donc dans une certaine manière, ce que le règne de Dieu est ou n'est pas, nous on n'y est pour rien dans un sens. L'attention, elle est due à Dieu qui a fait comme ça. Il a envoyé son Fils sur la terre, il s'est révélé davantage. Le Fils a tout accompli pour le salut et a révélé le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et puis, c'est pas encore fini, c'est pas encore la fin et c'est pas tout. Tout est parachevé, voyez. La terre continue comme si de rien à certains égards. Je pense que ça nous est tous arrivé de réfléchir en disant vous rendez compte, Jésus était sur terre. Sur terre, il était là, il marchait, il parlait, il faisait les miracles, ça, il parlait, il prêchait, il mangeait de ça. Et puis, contemporain à Jésus, il y avait un tel, l'Empire romain a continué, les Britanniques, ils étaient païens, etc. Enfin, vous comprenez? Mais c'est quand même, Jésus est venu et la terre continue. Alors, il est venu, il n'est pas venu. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Et l'attention est due à quoi? Uniquement au fait que Dieu patiente et donne du temps au monde. Hein, donc, ça c'est écrit un peu partout. Hein, mais 2 Pierre 3, par exemple, il use le début du chapitre 3, c'est ça, il dit, il y a des moqueurs qui viennent. Ils disent, où sont les promesses et tout, puisque tout est comme avant. La terre est comme... Vous voyez, et Pierre écrit, là, le Saint-Esprit fait écrire à Pierre, ils veulent oublier. Ceux qui se moquent, ils veulent oublier. Dieu ne tarde pas, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et donc, ils veulent oublier qu'il y eut autrefois une terre, et là, il parle de Noé. Et les gens, ils disaient à Noé, mais oui, tu dis que tu construis un truc qui ne sert à rien, parce qu'il n'y avait jamais eu autant d'eau à ces endroits-là. Ils veulent oublier. Donc, il faut comprendre que l'attention est causée par Dieu. Dire, mais c'est pas possible, Dieu ne cause que des choses qui m'arrangent. Non. Non. Et le malin, il cause que des choses que je trouve dégoûtantes. Mais je ne pêcherais pas beaucoup si c'était que ça. Hein. Dieu n'est pas positif. Dieu n'est pas positif. Il est juste et vrai. Ce n'est pas le Dieu vivant et positif, c'est le Dieu vivant et vrai. Il est vrai. Alors s'il a décidé de donner du temps à la terre et que pendant ce temps-là, ses enfants qui restent sur terre ont aussi des peines et ils ne sont pas encore au paradis, ils sont sur terre, et Dieu sait que ça leur coûte. Et Dieu sait qu'il y a des choses qui n'iront pas et qui seront encore tentées. Comprenez? Il ne faut pas confondre la bonté de Dieu et le principe du positif. Parce que sinon, j'ai des principes positifs, négatifs. J'ai tout casé. Et puis, je vais prescrire à Dieu de rentrer dans mes cases. Je dis de manière légèrement choquante, mais je vais taper du pied pour que mon Dieu soit positif. Et s'il fait quelque chose qui ne m'est pas agréable, je vais dire, il y a une erreur. Enfin, vous voyez, OK. Bon, pauvre, j'ai fait 60 km pour vous dire tout ça. Le mystère du royaume, c'est qu'il est à la fois présent et futur, sans contradiction. Et tous ceux dans l'histoire de l'Église, depuis le début, qui ont voulu réduire la contradiction, sont partis dans un excès. Il est à la fois présent et futur, pour nous, hein, vu d'aujourd'hui, vu de la terre, vu des êtres humains. Il est à la fois, le royaume est à la fois présent et futur, sans contradiction. Et chaque fois que je veux réduire la contradiction, dire c'est pas possible les deux à la fois. Pourquoi Dieu il fait des trucs comme ça les deux à la fois? Il en a fait d'autres. Hein. La lumière, c'est à la fois des ondes et des corpuscules. On va comprendre ça. Alors si tu veux réduire la dualité, qu'est-ce que tu fais? Tu sors une définition qui est fausse. Il faut accepter que c'est à la fois. Dieu est capable. Donc le royaume, c'est comme la lumière, à la fois présent et à venir. Voilà. Et si je veux que ce ne soit pas deux, mais que un, eh bien il faut que j'occulte une partie de ce que dit la Bible, que je cache, que je taise, ou que je dévalorise, ou simplement que je taise, je passe sous silence. Si je prêche que ça, si je prêche que le règne présent, je suis, un moment ou un autre, je suis coupable de taire ce que la Bible dit sur le règne à venir. Et à l'inverse, ce qui s'est beaucoup fait, si je prêche que le règne à venir, je suis coupable de taire le règne présent. D'accord ? Voilà. Donc, je répète juste, la tension est causée par Dieu, et il faut l'accepter. Et quand tu l'acceptes, ben tu es trop content et tu es léger. Tu es léger parce que tu es quelqu'un qui a été racheté par Jésus, qui sait très bien que sa vie est que ta vie, que tu allais vers la perdition. Même si avant tu ne le savais pas, maintenant que tu es sauvé, tu sais que tu allais vers la perdition. Tu sais que c'est lui le sauveur, tu sais que c'est le bon berger, tu sais que c'est lui qui est sage. Hein, Romain finit comme ça, Dieu seul sage. Tu sais ça, et tu es son disciple, donc tu es apprenti, tu es volontaire pour le suivre, pour apprendre. Voilà, et même quand tu lis des choses comme vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, tu ne comprends pas tout, mais tu l'admets. Et donc en vérité, tu es content de dépendre de lui. Et peut-être que jeune chrétien, avec un peu d'illusion, tu t'es imaginé quelques minutes ou pendant quelques mois, que la vie serait bien plus belle si c'est toi qui tenais le gouvernail, ça t'a passé. Parce que t'as mangé quelques platanes et quelques mûres. D'accord. Donc, en vérité, si tu as mûri dans la foi, tu es hyper content de dépendre de sa sagesse. D'accord ? Quand bien même tu es perdu. Quand bien même tu es dans des grandes douleurs, morales ou pas, tu es quand même content de ça. Et donc, si tu admets que à la fois présent et futur, c'est de lui et à cause de son choix de donner du temps aux hommes, eh bien, ça t'allège. De l'admettre, ça t'allège. D'accord ? Voilà. Donc, si vous voulez, formuler avec d'autres mots, il ne faut pas rêver de fondre en un les deux siècles, le siècle présent et le siècle à venir. Alors là, je sens venir dans certaines de vos pensées une objection biblique. Quand même, c'est écrit, Jésus a quand même dit que quand on prie, on dise que ton nom soit sanctifié, premièrement, enfin, en premier, qu'on dise Père. Ce qui indique qui prie. Ce qui indique qui prie. De dire Père, et puis un peu plus loin, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors on peut dire, mais est-ce que ça ne revient pas à fondre en un les deux siècles ? Alors, Je vais essayer de répondre, mais non pas en vous donnant un avis ou une opinion, mais en essayant de vous partager un principe de lecture et donc de compréhension de la Bible, un principe que Jésus lui-même a montré, c'est que les mots de la Bible doivent signifier pour moi ce qu'ils ont signifié pour leur auteur. Ok ? Voilà. Les mots de la Bible doivent signifier pour moi ce qu'ils ont signifié pour celui qui les a prononcés, que ce soit l'Éternel directement, ou Moïse, ou Jésus, ou Pierre, Paul, mais bien sûr pas tous, par l'Esprit de Dieu. D'accord. Alors, quand Jésus dit « Priez, vous qui pouvez dire Père », parce que Dieu n'est pas le Père de tous les humains, au sens où Jésus emploie le mot « Père hein, », il est le Père de ceux qui ont cru en Christ et qui ont été adoptés en Christ. Et c'est pour ça qu'il y a tellement souvent dans le Nouveau Testament l'expression « en lui ». C'est-à-dire, si tu enlèves Christ, moi je ne suis plus adopté. Donc à ce moment-là, Dieu reste le Père de Jésus-Christ, mais pas le mien. Ok. Et donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la première implication, c'est que celui qui prie, ça l'engage. Au même titre que « pardonne-nous comme nous pardonnons ». Ah d'accord, je vais faire comme tu fais. Donc ça t'engage, prier, dire « pardonne-nous comme nous pardonnons », hey, si tu pardonnes toujours tout très bien, alléluia, mais si des fois il te faut 6 mois pour pardonner, tu es en train de demander à Dieu d'attendre 6 mois pour te pardonner. Bon, il ne fait pas ça lui. Hein. Mais il ne fait pas toujours comme on dit, heureusement. J'espère que vous êtes contents de ça, que Dieu ne fasse pas toujours comme on dit. Alors, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça engage en premier celui qui le dit. Celui qui prie, ça veut dire je veux être un disciple obéissant et faire. Amen. Même si on est dans l'être d'abord, mais faire. Voilà. Alors, est-ce que par extension, la prière ne signifie pas que tous les êtres humains sur terre fassent ta volonté ? Petit silence de suspense. Alors, je vais encore éviter de répondre par une opinion et revenir au même principe. Est-ce que ailleurs, quand Jésus parle, il promet et il annonce que tous les êtres humains sur la terre feront la volonté de Dieu? Je suis désolé, hein, je fais 60 km pour dire des choses pareilles. En plus, j'ai fait lever tôt mes petites filles qui étaient fatiguées, qui ont fait un long voyage hier. Et pourtant, est-ce qu'il ne le veut pas? Il veut que tous les hommes parviennent au repentir et au salut. C'est impressionnant. Et Jésus, il annonce la multiplication de l'iniquité. Est-ce qu'il la veut? Pas du tout. Et pourquoi? Enfin, il annonce. Ce n'est pas une promesse, hein, c'est une prédiction juste. C'est juste une prédiction. Parce que dans les discours, surtout les discours qu'on appelle eschatologiques de Jésus sur la fin des temps, tout n'est pas promesse. Il y a des promesses, mais il y a juste des prédictions. D'ailleurs, le mot est de Jésus. Il dit « Voici, je vous l'ai prédit. On vous mènera, on vous maltraitera, on vous amènera devant les tribunaux. L'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Je vous l'ai prédit. » Voilà. Alors, selon l'endroit géographique ou la période historique où quelqu'un dirait ce que je dis maintenant, les auditeurs vont mettre l'accent très fort sur « Voyez, il a promis que l'iniquité multiplierait et tout, donc il ne faut pas se casser la tête, il ne faut pas chercher à ce que la vie s'améliore, etc. » Vous voyez, on bascule dans un excès ou à l'inverse, puisque Dieu ne le veut pas, il ne veut pas l'iniquité, il est venu, le règne s'est approché, etc. On va faire de la planète le paradis. Ben, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire alors, si on fait ni l'un ni l'autre? On va suivre Jésus. Ce qu'il nous fera faire, on le fera. Et ce qu'il ne nous fera pas faire, on ne le fera pas. S'il nous conduit à proposer la guérison à des dizaines, puis des milliers, puis des millions de personnes, et qu'on voit des millions de guérisons, on le fera. S'il nous donne d'autres dons et qu'on fera autrement, on fera autrement. Si on voit... quand vous lisez l'histoire des missions, les premiers qui sont allés en Chine, ils sont restés je ne sais pas combien de temps, et il y en a un qui a vu zéro conversion. Est-ce qu'il a moins servi le règne de Dieu que qu'aujourd'hui ceux qui arrivent? Et puis bon, il y a à peu près 10% de chrétiens en Chine. Sur 1,3 milliard, ça fait 130 millions. Alors, ils ne sont pas tous dans la même région, sinon ça serait... c'est pas, si vous voulez, c'est pas le nombre, l'ampleur, et pourtant Dieu veut que son règne soit visible aussi. C'est la visibilité du règne qui augmente. C'est très important. Alors, je vais encore, quelle heure il est? Mettez-moi 10. Donc, vous êtes d'accord qu'il ne s'agit pas d'équilibre. On va un peu aimer ce monde et un peu espérer l'éternité. Ce n'est pas une question d'équilibre, c'est une question de vérité. C'est juste que Jésus dit les deux, parle des deux et nous maintient dans la... Enfin, nous maintient, nous fait que nous vivons sur terre dans la tension entre les deux. Alors, comment je vais... Depuis très longtemps, il y a deux expressions qui sont les plus utilisées concernant le règne de Dieu dans le monde chrétien, toute confession confondue, mais surtout dans le monde évangélique au sens aussi large que possible. C'est « il règne dans nos cœurs ». C'est énormément utilisé, il y a des chants avec ça, tout ça. Et puis, établir le royaume de Dieu, ou l'amener, ou le faire descendre, etc. Ce sont les deux plus utilisés, et les deux indiquent finalement où le focus est mis. Dans le premier cas, il règne dans nos cœurs, plus ou moins secrètement, ça signifie... avec ça, j'ai expliqué pourquoi son règne ne se voit pas au dehors. Est-ce que vous me suivez? Il règne dans nos cœurs. Alors, il ne règne pas dans la ville, il ne règne pas dans ma famille, tout ça. Bien sûr, non, quand même, le royaume, il est futur, il est à venir. Mais dans mon cœur, il est déjà là. Voyez? Voilà, donc l'accent est mis là. Et dans l'expression « amener le royaume, l'établir », l'accent est mis sur le fait qu'il va remplir la terre. Alors, désolé encore, hein, vous aurez besoin de pratiquer le pardon. Aucune des deux expressions ne figure dans la Bible. La Bible ne dit jamais que Dieu règne dans nos cœurs, c'est écrit nulle part. C'est écrit que Dieu règne. Et la Bible ne dit jamais que nous avons à établir le royaume. Jésus n'a jamais dit à ses disciples d'établir le royaume. Il a dit de le recevoir comme les enfants, qu'il s'est approché, de le recevoir, de le croire, d'y entrer et de le proclamer, ce qui inclut démontrer. Il ne leur a jamais dit de l'établir. Voyez? Alors, vous connaissez la parabole de l'ivraie et du bon grain, enfin, ainsi dénommée. Maître, n'as-tu pas planté de la bonne semence dans ton champ? Oui. D'où vient alors qu'il y a de l'ivraie? Et Jésus, le maître répond dans la parabole, c'est un ennemi qui a fait cela. Veux-tu que nous allions l'arracher? Et vous connaissez la réponse. Non. Et il explique pourquoi. Parce que vous allez le faire comme des manches. C'est une version particulière de Matthieu 13. C'est pas votre mandat. Vous savez, c'est comme quand il dit ne jugez pas. Et pourquoi il ne faut pas juger? Parce que Jésus a dit de ne pas le faire, c'est tout. Ça suffit comme motif. Et si on pousse plus loin, parce que ce n'est pas notre mandat. Il ne nous a pas donné les éléments pour. Alors, juger au sens de discerner, juger de quelque chose, mais juger les gens. Mais non, ce n'est pas vous. Faites-vous que nous allions l'arracher? Non. Ce n'est pas le mandat. Le mandat, c'est suivre Christ et à tellement vivre pour lui que on est témoin. Et alors, faites des disciples. Bon, bien sûr, prêchez le repentir, prêchez la croix, prêchez la résurrection, prêchez Christ. Prêchez Christ. Parce que prêcher le royaume, c'est prêcher le roi, hein. Prêchez Christ. Vivre tellement pour lui qu'on est témoin. De tout temps. J'ai employé plusieurs fois jusqu'ici le mot discrédité. Pourquoi est-ce que la formule de Marx, la religion et l'opium du peuple, a eu du succès? C'est pas, la foi n'est pas l'opium du peuple, elle ne le drogue pas pour que... mais parce que le clergé ne remplissait pas le mandat, mais était ça coquinait avec le pouvoir politique et surtout vivait pour ce monde et le confort et les etc. Et il est notoire que, pas seulement jusqu'à la réforme, même après, le haut clergé, par exemple, au sud de tous les habitants de la ville, recevait des prostituées à l'évêché. Ou simplement vivait dans l'abondance et d'autres mouraient de faim. C'est-à-dire, il prêchait le règne présent complètement déformé, c'était devenu une domination de l'homme sur l'homme, mais le règne éternel, le paradis, vous allez au paradis, bon, on a quand même eu une bonne idée pour ceux qui sont embêtés, il y a un purgatoire, comme ça, désolé, un peu de... il prêchait le règne et il vivait pour l'amour du monde. Et ce qui discrédite le témoignage chrétien, principalement, alors on va dire, oh super, tu as parlé de clergé catholique, bon, c'est pareil pour le non-catholique, mais orthodoxe ou autre. Mais nous, évangéliques, si je prêche l'éternité et que globalement je vis pour l'amour du monde, de cette terre-ci, je discrédite mon témoignage. Alors attention, l'amour des habitants de cette terre-ci, ça, oui. À fond, hein, à fond. Ok ? Est-ce que ça va ? Dieu a tant aimé le monde, écrit l'apôtre Jean. C'est Jésus qui le dit. Et puis, écrit l'apôtre Jean, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Est-ce que c'est le même monde ? Dieu a tant aimé le monde, c'est les gens. N'aimez pas le monde, c'est le système. Vous voyez ? Et le seul moyen pour ne pas aimer le monde et être pris à vivre pour les choses de la terre, c'est d'aimer le monde, c'est-à-dire c'est d'aimer les gens. Finalement, le seul moyen de servir dans le siècle présent, le siècle à venir, de servir l'éternité, le dessein éternel, le seul moyen de le servir dans le siècle présent, c'est d'aimer les gens et de les évangéliser. Avec ça, on n'a pas fondu les deux en un, mais on n'est pas déchiré entre les deux. Pourquoi je ne suis pas malheureux sur la terre? Pourtant, il y a de quoi, hein? Et des fois, je le suis, évidemment. Mais globalement, pourquoi je peux être un chrétien heureux sur terre, alors que on n'est pas aveugle non plus, hein? Pourquoi je peux être heureux sur terre? Pas seulement parce qu'après, j'irai dans la maison du Père. Bien sûr que c'est principalement mon bonheur indestructible, complet, il est là. Mais en attendant, mon bonheur est vrai quand même, Pourquoi? Parce que j'aime les gens que Dieu appelle au siècle à venir. Si vous voulez, c'est aimer des gens de ce siècle-ci assez pour leur montrer le siècle à venir. Amen. Bon, ben normalement, on devrait pouvoir s'arrêter là. Mais je vais quand même lire un mot de Jésus. Si, pardon, je peux encore quelques minutes. J'ai parlé de pas aimer le monde, etc. On peut dire c'est facile. Bon, ben, lui, il regarde beaucoup la télé, il aime le monde. Moi, je suis spirituel, j'ai pas la télé chez moi, etc. Bon, accessoirement, j'ai la télé chez moi et je regarde pas mal. Mais c'est un sujet, si vous voulez, aimer le monde, pas aimer le monde, etc., qui est où on a vite fait de se comparer, de se juger, ou de culpabiliser, ou d'être fier de soi, etc. Comme tout ce qui peut être pas bon dans notre vie, il y a des mesures. Peut-être que je suis un petit peu trop dépendant de ce monde, alors par exemple, le besoin de plaire. Voilà, je dépends du regard des autres. Il faut que je plaise, il faut qu'on m'approuve. Voilà. Bon, là, c'est un esclavage, ça. Et ça, c'est regarder aux choses de la terre. Vous voyez, il ne s'agit pas là d'argent, il ne s'agit pas de sexe, il ne s'agit de rien de, entre guillemets, grossier, enfin d'argent, de cupidité, parce qu'en soi, l'argent, c'est neutre. Il ne s'agit pas de ça, mais si le principal moteur de ce que je fais, même en tant que chrétien, c'est plaire à l'autre, si je dépends du regard des autres, même à l'intérieur de l'Église, mais plus largement au boulot de ça, ben oui, je regarde aux choses de la terre. Parce que l'approbation des autres, on en a un peu besoin tous quand même, hein, mais l'approbation des autres trop indispensable pour moi, c'est typiquement terrestre. Et Dieu, il m'apprend à dépendre de son approbation. D'accord, hein? Voilà. Et des fois, ça peut être hyper grave, se dépendre du monde. Paul a écrit, je ne sais plus où il a mis ça, Philippiens. C'est beau, Philippiens. Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Et ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Philippiens, c'est trop génial. Mais dans Philippiens, il est écrit... Non, mais je ne l'ai pas marqué, donc il faut que j'aille voir. Regardez bien. Hein. Désolé, hein. Pareil, j'ai fait 60 km. C'est-à-dire, tu aurais pu t'abstenir. Hein. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. On dit, bah, c'est pas possible, ils prêchent des fausses doctrines. Et ils prêchent... Ah oui, pardon, 3:18. 3:18 jusqu'à... Ouais, 18:19. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc là, on est dans le plus grave. Voilà. Et le problème au départ, ce n'est pas un problème de doctrine sur la croix. C'est qu'ils professent la croix, globalement. Mais ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il y a des choses qui sont honteuses, mais eux, ils en font une gloire. Et leur Dieu, ils disent que leur Dieu, c'est Dieu, le Père de Jésus-Christ. Mais là, c'est écrit, leur Dieu, c'est leur ventre. Est-ce utile de lire un verset comme ça en Église ? On ne lit pas dans la Bible, ne sont pas écrites seulement des choses qui me concernent directement dans mon expérience d'aujourd'hui. Beaucoup de choses sont écrites pour éclairer, pour avertir, pour instruire et pour comprendre les mécanismes qui font dérailler. Donc, par exemple, moi je lis ça à voix haute, et donc je vous le dis, aujourd'hui directement et objectivement, je ne suis pas destinataire de ce... Enfin, je ne suis pas décrit par ce texte. Vous comprenez? En plus, moi, mon Dieu, ce n'est pas mon ventre. Et là, il n'y a pas de souci. Hein, pour ceux qui écouteront sans l'enregistrement, je suis bedonnant comme un fil de fer. Donc, vous comprenez, ça ne me décrit pas. On lit beaucoup de choses qui ne nous décrivent pas directement, et heureusement. Et pourtant, elles nous sont écrites. Et là, c'est écrit à une église, à Philippe, une église que Paul aime beaucoup. Il dit, vous avez été les seuls à estimer combien vous me devez, pas vous me devez rien, mais quand même. Et puis, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Donc, c'est une église qui vit de belles choses. Alors, pourquoi il leur écrit ça au milieu? Il leur dit, voilà, ça existe. Et il résume tout ça. Pour lui, tout ça, c'est être à l'opposé de la croix de Christ. Parce que la croix de Christ me sauve complètement, fait de moi une... Enfin, Christ crucifié et ressuscité, c'est pas la croix en tant que... Okay. Christ crucifié et ressuscité, Christ vivant, me sauve complètement, m'a donné une nouvelle vie, et aussi me fait perdre ma vie. Et même il m'explique que si je la perds, c'est là où je la retrouve, et si j'arrive à la garder, à la sauver, c'est là où je la perds. Amen. Donc, désolé, j'avais dit que je voulais lire un mot de Jésus. Je lis ça et j'ai fini. Matthieu 6. J'ai hésité d'ailleurs à commencer par ce texte-là, mais c'est bien en conclusion, c'est pareil. Si j'avais commencé là, j'aurais quand même conclu là. Matthieu 6, verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Ici, votre justice, ça veut dire aumône, prière, jeûne, tout votre piété devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce que fait Jésus, à part de leur dire comment se comporter? Il leur propose de changer de référence au niveau de la glorification et de la récompense. Il dit, si tu le fais pour plaire aux hommes, il te glorifie, il dit, oh, lui, c'est un super croyant. Et il dit, ben, c'est bon, tu as ta récompense. Et en fait, le reste de la Bible appelle ça vivre pour les choses de la terre. Mais oui, mais j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait l'aumône. Et Jésus les fait changer, il les réfère au ciel. C'est impressionnant, hein? Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, un des points forts de ce paragraphe, ces premiers versets de Matthieu 6, c'est que, c'est ce que Paul dira avec d'autres mots dans Colossiens 3. C'est la récompense céleste qui doit vous intéresser. Et en attendant, eh ben, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir. Voilà. Voyez ? Amen.
Merci Jean.